Alors, nous sommes dans Yuma, dans Pébet. Hier, on a fait Tazria Metzora. Vous avez rencontré l'actualité. Sa famille a hâté. Le Metzora, il a sur la bouche, sur la moustache, une couverture pour pas cracher ou éternuer sur les autres.
Oui, on a vu.
C'est l'actualité. D'ailleurs, il est intéressant à constater. Qu'est-ce que c'est ce bruit? La Rouven, tu fais un bruit? Alors, il y a une halakha que Ishamer benega tzarat, lishmor ba'ot vela asot. Il faut faire très attention sur le nega tzarat. Qu'est-ce que ça veut dire faire très attention? Lishmor ba'ot vela asot. Après, on nous dit, rappelle-toi ce qu'est, est arrivé Myriam. Donc, qu'est-ce que la Torah est venue dire à Al-Pipchat? Al-Pipchat, faire très attention de ne pas contaminer les autres. De faire très attention de ne pas arriver à un Negatzara, c'est-à-dire de ne pas parler le Shonara. Et aussi, le Gemara nous dit, faire attention de ne pas arracher le Negatzara. L'homme qui ne veut pas être exclu de la communauté, il aurait peut-être voulu couper le tzarat. C'est quoi le tzarat? Un morceau de peau tachetée, tachée, une tache blanche avec deux poils blancs. Alors on prend un rasoir, on coupe les deux poils blancs et le problème est réglé. On n'est pas tamé, on n'est pas exclu. Il y a une entreprise de 500 personnes, il gagne beaucoup d'argent, il sera exclu, c'est une catastrophe. Eh bien, il prend un ciseau et coupe les deux poils. Le problème est réglé. La Torah nous dit, c'est Allah, Fishamir, Benegatzarat. Il est interdit, mais la Torah, de couper. Quel est le pshat? Si on peut se débrouiller, pourquoi pas? Non, la Torah ne veut pas que comme ça tu te débrouilles. Vérité, ça fait un peu une allusion à un Zohar. Donc, Parshat Vayera, il y a Midrash Ne'elam qui est marqué dans le Zohar. Rabbi Acha est arrivé dans une ville en plein virus, plein épidémie. Alors les gens, ils sont venus chez lui, ils ont dit, vous êtes un grand chacham, faites quelque chose pour sauver le monde, sauver les gens de la ville. Alors il a dit, on va aller à la synagogue prier. Alors les gens, ils sont venus, ils ont allé prier, et les gens sont venus, ils ont dit, monsieur tel et tel vient de mourir, monsieur tel et tel vient de mourir, encore d'autres personnes qui sont tombées malades. Alors il a dit, bon, on n'a pas le temps de prier, il faut agir, mais on ne peut pas prier maintenant, il faut agir. Alors choisissez 40 des meilleures personnes de la communauté, et on installe 10 personnes dans chaque coin de la ville. Et vous allez faire le Pitomaktoret avec une grande cabana, avec beaucoup de ferveur. Alors, ils ont fait ça, ils ont dit trois fois le Pitomaktoret. Et la maladie s'arrêtait, le virus s'arrêtait. Et dessus, le Zohar raconte que Rabbi Acha est tombé malade. Il est tombé au coma. Et quand il était au coma, on lui a dit, Minashamayim, il y a un Kpeida contre toi. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Il fallait rendre les gens bichouva. Alors il s'est réveillé. Il a réuni tous les gens de la ville. Il leur a dit, vous faites chouva pour tous les avirotes qui existent. Et cette ville, c'est quelle ville? C'est Mata Marsaya. La ville Marsaya. Marsaya, c'est la ville où Rava était le Rav. C'est une grande ville. Rava, le Gadol Ador, était le Rav de Marsaya. Pourquoi? C'est pour ça qu'elle s'appelle Marsaya, Mishan Chas. Hachem, il avait pitié sur cette ville. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Lui, il avait un patente, il avait une arme de dire Pitom Aktoret avec beaucoup de kavana, beaucoup de ferveur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que dire ferveur, mais bon, c'est quelque chose. Bon, c'était un système qui était plus efficace que la tfila. Mais il l'a faite, et une fois qu'elle était faite, il était content, il voulait quitter la ville. Alors, il y avait un Kpeida. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Il faut rendre les gens bitchouva maintenant. Il l'a fait, alors c'était bien. Donc d'où ça vient cette histoire? D'où il aurait pu savoir qu'il faut aussi rendre les gens bitchouva? Ça, c'est bien de ce qui est marqué. Shamir ben Negatzarat, l'ishmor borot ben la sorte qu'on n'a pas le droit d'arracher les Negatzarat. Mais si on arrache le Negatzarat, on n'est plus Metzora. Non, mais la Torah ne veut pas que tu fasses ça. Alors, qu'est-ce que la Torah veut? La Torah veut qu'Israël dort. Et pour qu'il fasse teshuva, pour qu'Hachem y guérit. D'ailleurs, il est intéressant, il est marqué dans la parasha Negatzarat. Le mot Nega, la plaie, ça vient de quel mot? Negia. Negia, ça veut dire intérêt. La Mishnah dit, Hanogea badavar, lodano, velomiido. Ce qui a un intérêt d'un témoignage, je ne peux pas témoigner, il ne peut pas être juge. Il a une negia. Il a un intérêt personnel. Le mot negatzarat, la plaie, chaque intérêt est une plaie. Dès qu'un homme il a un intérêt de quelque chose, il est sujet à se tromper. Rester subjectif, rester objectif, pas intérêt, la chose, la vérité telle quelle, sans intérêt. Ça, c'est la situation saine d'un homme. Un homme sain, c'est un homme objectif. Dès que l'intérêt le mène, eh ben, il a une plaie. Et le Negatzarat vient montrer cela. D'ailleurs, il a intéressé les marqueurs Chumash. Si on a un Nega, une tache blanche, la tache blanche ne rend pas tamée, donc il n'y a pas de poils. Aux deux poils qui sont devenus blancs, deux poils noirs qui se sont transformés en blancs. Alors là, c'est un signe de néga. Qu'est-ce que ça représente, les poils blancs? Qu'est-ce que ça représente, la tache? La tache, probablement, c'est quoi? La tache, c'est. Ça annonce comme si la peau, elle meurt, comme la mort, et les poils blancs. Ça veut dire quoi, les poils blancs? C'est un vieillissement. Rappelle-toi la fin. Peut-être c'est comme ça. En tout cas, la tache lui-même n'est pas encore un signe de néga. Mais quand au milieu de la tache, il y a de la chair en bonne santé, là, quand après qu'il y a la tache, ils se mettent à essayer en bonne santé au milieu. Bassar Chai Basset, là il est tamé. Quel est le sens? Alors Rashi explique, la Torah nous dit, Tzarat nosheneti, Baor Paracha, c'est une vieille Tzarat, ça c'est tamé. C'est à quoi c'est une vieille Tzarat? Il avait d'abord une tache blanche, mais il n'y a pas de poils. Alors pour le moment, il n'y a pas de problème. Le temps y passe et il apparaît une chair en bonne santé au milieu. Alors maintenant il est tamé. C'est un vieux Tzarat. Ça veut dire quoi? Rashi explique. S'il y a la chair en bonne santé en haut, c'est une preuve qu'en dessous il y a une infection. Et donc maintenant il est tamé. Mais la Torah ne dit pas le mot infection. Rashi dit leicha, il y a une leicha en dessous. Il y a une infection en dessous. Mais la Torah dit pas leicha, la Torah nous dit tzarat noshenet, une vieille. Pourquoi tu parles d'une vieille? Nouveau, vieux, ça veut dire quoi? Sentez-les comme ça. Une tzarat, une tache blanche, s'il veut guérir, la Torah nous raconte, elle diminue. Dans la Torah, il y a pision augmentée, impasot tifse atzarat, et si le contraire, elle diminue. Mais où elle doit diminuer? Sur les côtés. On a un tzarat, un chiou gris. Si sur le côté ça diminue, c'est moins que gris, il est tahor. Mais ce n'est pas la coutume de guérir normalement au milieu. Si c'est guéri au milieu, c'est un signe de contraire. C'est une couverture pour ce qui se passe plus profond. Rachid dit donc plus profondément, il y a un néga. Et pour pas qu'on voit ce néga, il y a maintenant la chair en bonne santé en haut. La chair en bonne santé cache ce qui est en dessous, c'est grave. Tzarat noshenet, elle est vieille. Ça veut dire qu'il s'habituait tellement avec ce tzarat, avec ce début de tzarat, qu'il essaye de cacher. Le pshat, il est le tzarat, ça montre un défaut dans son comportement, dans son caractère. Quand l'homme il a une tache blanche, ça annonce, c'est le début d'un tzarat. Donc, il n'y a pas des poils blancs, il est encore tahor. Mais ça annonce le début de quelque chose. Mais cet homme-là, qui voit qu'on remarque sur lui un défaut, il essayera peut-être de le cacher, ce défaut. Mais pas le guérir, mais le cacher. Mais s'il le cache, il s'infecte plus. Donc, en haut, la chair elle est en bonne santé pour dire aux gens, vous voyez, je suis en train de guérir, je n'ai pas des défauts. Ça, c'est encore pire. Si on cache les défauts, tu ne veux pas voir les défauts. Alors, ça risque de s'infecter encore plus. Là, il est tout de suite fermé. Bon, alors, on va continuer la Mishnah. Yuma, donc, Yuma, Peibet. 82, on est dans la Mishnah. Ubra Shehericha, une femme enceinte. Shehericha, qui a senti un plat. On est en train de griller un plat, de cuire un plat. Elle a senti. Elle a très envie de manger, de boire. Et elle n'arrive pas à se retenir. Marilinota, on lui donne à manger. Cède. Si elle ne peut pas, on lui donne à manger. Pourquoi? Quand il dirait qu'elle est en danger. Ou elle, ou le, peut-être le fœtus. Le fœtus veut manger. Docteur, ça existe encore aujourd'hui à notre époque, cette histoire?
Ah, Dieu, ouais, je ne saurais pas vous répondre, ça me paraît très curieux.
Ça vous paraît?
Très curieux, parce que le fœtus, il est alimenté par le cordon ombilical.
Alors?
Alors, a priori, c'est la mère qui a, enfin, c'est elle qui est... Mais je sais, je me souviens que... On dit que lui... Le fœtus, il réclame, et que si c'est un tzaddik, on calme.
Ça, on verra dans la Gemara. Ça, la Gemara va aborder.
Là, je me souviens.
Mais... La Gemara va aborder ça. Ma'achilinota, on lui donne à manger. Achetashiv nafsha, jusqu'elle retrouve ses esprits, jusqu'elle se calme. Cholé, un malade. Ma'achilinoto, on lui donne à manger. Alpi Bekiin, sur l'ordre de Bekiin, des gens qui connaissent. Qui connaissent les médecins. Pourquoi il n'est pas marqué ici Rofim, médecin? Parce que le mot médecin, hein, il n'est pas clairement. Qu'est-ce que c'est un médecin? Il existe des médecins, des professeurs, des chirurgiens, des apprentis médecins, des infirmiers. Il y a toutes sortes de médecins, ce n'est pas clair. Alors la Mishnah préfère.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui connaissent, même s'ils ne sont pas médecins.
Oh, on n'est pas obligé d'être médecin, avoir cette année à l'université, trucs. Baki, on dit un mot qui est anglo-plus. Baki, il connaît. Quelqu'un qui dit, je connais, je sais, ça, c'est une hypoglycémie. Je n'ai pas fait des grandes études, mais j'ai fait un peu de l'isoglycémie. Je sais que ça, les types, il est en train de tomber dans les pommes. C'est dangereux. Alors, ça suffit.
C'est pour inclure aussi les sages-femmes. Les sages-femmes. Les sages-femmes, elles sont en bukiote.
Oui, mais ici, on ne parle pas d'une femme enceinte. On parle d'un malade. D'abord, la première partie de la Mishnah Ubra parle d'une femme enceinte. Donc maintenant, on arrive au cholé, un malade. Cholé, Marilim noto al bibikim, on lui donne à manger selon les gens qui sont bakim. Mimen sham bikim, mais s'il n'y a pas de bikim, il y a de simples gens qui n'ont pas de connaissances, rien en médecine, mais en médecine. Marilim noto al piatsmo, on lui donne à manger sur sa propre rapport. Il dit, j'ai besoin de manger, je me sens très mal, donnez-moi à manger, et bien ça suffit. Alpi Atzmo,
quand elle dit Bekin, la Mishnah, ça ne veut pas dire qu'il faut plusieurs avis de médecin?
Ah, pourquoi c'est marqué Bekin et pas Baki?
C'est-à-dire qu'il faut en fait des médecins.
Plusieurs personnes. Alors, on verra dans la Gemara. On verra dans la Gemara. Pourquoi la Mishnah, elle a pris le mot Bekin pluriel? Est-ce qu'on a besoin vraiment pluriel, plusieurs avis? Un avis ne suffit pas. On verra dans la Gemara. Donc, Marchelino Toalpi Atzmo, on lui donne à manger selon ce que lui, il dit, Atchio Mardai, jusqu'il dit, ça suffit, je n'ai plus besoin plus. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a créé dans l'homme un appareil qui lui fait dire quand il a besoin, quand il n'a pas besoin. Comme Hachem, il a mis comme ça dans le corps de l'homme, il ressent qu'il est en danger, il mange, quand il n'est plus en danger, il ressent qu'il n'est plus en danger, il ressent. C'est son sentiment qui indique, et la Torah tient compte. On aurait pu dire, même s'il dit « j'ai besoin », on ne tient pas compte. Ou le contraire, même s'il a mangé et il dit « j'ai plus besoin », peut-être tu te trompes, peut-être tu as eu besoin, on dit non, normalement c'est comme ça. Normalement, quand l'homme il dit « j'ai plus besoin », c'est parce qu'il n'a pas besoin. Quand il dit « j'ai eu besoin », c'est qu'il a eu besoin. L'homme, il est son juge. Alors, pourquoi la Mishnah nous dit ça quand il n'y a pas de Baki? La Mishnah Mashma, que si un Baki, on ne demande pas son avis. On dit, s'il n'y a pas de Baki, on lui donne à manger selon ce que lui dit. Lui dit, j'ai besoin. Mashma de la Mishnah, que s'il y a eu un Baki, et le Baki dit, monsieur, vous êtes en danger. Il lui dit, non, je ne suis pas en danger. Mashma, on ne tient pas compte de ce que lui dit. On tient compte de ce que le médecin dit. Le médecin dit, mais vous êtes lui en danger. Eh bien, on donne à manger. Mais lui, il dit, je n'ai pas besoin. Ça veut rien dire. Il peut dire que je n'ai pas besoin. L'avis du médecin est plus fort. Il peut se tromper. S'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecin. Alors, s'il n'y a pas de médecin, lui, il dit, j'ai besoin. On tient compte. Après, il dit, j'ai plus besoin. Ça suffit. Mais quand il y a un médecin qui dit, vous avez eu besoin, on ne tient pas compte de ce que lui, il dit. Alors, Gmara, Tana Rabbanan, Ubra Shehiricha Basar Kodesh. Une femme enceinte qu'elle a senti une odeur de Kodesh. Ça veut dire quoi, une odeur de Kodesh? Elle est au Bet HaMikdash et elle sent que quoi? Le Griad, ou elle est à Yerushalayim, et un Korban, mais elle ne peut pas manger, disons, elle est tamée. Et le mari, il a porté un korban shlamim à la maison, il fait la grande griade. Elle sent cette griade, elle est enceinte, elle veut manger, mais elle est tamée, elle ne peut pas manger. Au bassar chazir, où il y a un goy à côté qui est en train de griller un morceau de chazir, elle sent l'odeur. Elle dit, j'ai besoin, tochen lua, couche, berotef. On enfonce, couche. Couche, ça veut dire une tige. On prend une tige, je mets berotef dans la soupe. On met sur la bouche, ou dans la bouche probablement. On met dans la bouche. Qu'est-ce qui se passe? On met dans la bouche, il va goûter deux gouttes. Si ça le calme, c'est bon. C'est-à-dire, deux fois, deux gouttes peuvent calmer. Ça veut dire, cette envie, c'est pas vraiment qu'elle a besoin de manger ce chazir. C'est un truc psychologique, aniré, psychosomatique. Elle a envie. Mais deux gouttes, des fois ça calme, ça y est, c'est bon, j'ai senti. Et ça remplit pas le ventre, deux gouttes. Il a mis une tige, il prend même pas une cuillère de soupe. Là, on dit pas une cuillère de soupe, une couche, c'est une tige, simplement une tige. Et cette tige, on trempe dans la soupe, on met dans la bouche, ça peut calmer. Des fois, c'est psychologiquement.
Une question, vous avez dit Kodesh, que c'était de la viande de Zbahim. Mais si on compare Kodesh à la Mahazir, c'est peut-être quelque chose de une viande cachère, quoi, puisqu'on va tremper dans la soupe où il y a la viande. Quelle viande il y a dans la soupe? C'est de la viande cachère.
Mais quel est le problème?
Vous avez dit Kodesh, parce que c'est de Zbahim, elle ne peut pas manger de Zbahim.
Je n'ai pas compris. Shlamim, une femme peut manger Shlamim.
Oui.
Une femme peut manger shlamim. Ici, on ne parle pas Kippour. Ou Bacheriha, Bassar Khazir, on ne parle pas Kippour, on parle toute l'année.
Ouais.
Si c'est Bassar Khoulin, il n'a qu'à manger, où est le problème? On n'a qu'à donner à manger.
Mais qu'est-ce qu'on craint?
On parle ici que la viande qui est interdite pour la femme. Quelle est l'interdiction de manger Bassar Khoulin? Bassar Kodesh, c'est un korban, elle est tamée, et le mari, la korban shlamim, et donc si elle va manger tamée, ça c'est le problème, c'est pour ça que j'ai besoin de
quoi? C'est Ola, Ola. Ola, c'était Ola.
Un sourd aussi pour elle. Pourquoi vous voulez dire
Ola? Mais Ola, c'est Kobet Amigdash, pas Yerushalayim, c'est Kobet Amigdash. Alors, si elle est au Beth Amikdash, elles sont la viande de Ola.
Ouais.
On va lui donner à la femme de Ola.
Mais qu'est-ce qu'on craint de toute façon?
Qu'elle va mourir. Qu'elle fait une fausse couche. Elle est enceinte. Elle risque de faire une fausse couche. Une fausse couche, c'est un danger pour le fœtus, c'est un danger pour elle aussi. Perdre un bébé, elle peut faire un danger. J'entends rien, docteur Chimoni. Il faut que vous ouvrez. Il faut que vous ouvrez, votre machin bidule.
Mais voilà, Chimoni. C'est quoi?
Voilà, qu'est-ce que vous dites?
Il n'y a jamais eu de fausse couche en Israël, à Jérusalem.
Il vous a dit, la Mishnah de la Kabbot, Me'olam lo hipi la'ish emereach besara kodesh. Oui, mais la Mishnah, c'est une théorie. Si ça arrive, alors il faut savoir quel est le din. Maintenant, si ce n'est pas arrivé, tant mieux. Le din, il est que si ça arrive, la Mishnah parle un cas théorique. Après, tu vas l'appliquer sur des cas qui pourraient être pratiques. Ce cas-là, il y a un es mina shamaim que ce n'est pas arrivé. Mais ça aurait pu arriver. Donc, le din doit être marqué. Alors.
En fait, c'est. Moi, je ne comprends pas. Il dit Khazir, la Gemara, mais quel rapport Khazir? On va lui mettre quelques gouttes de Khazir à elle?
Exactement, monsieur.
Mais non, mais on peut lui. Pourquoi elle ne dit pas. Qu'on lui met une autre viande grasse ou je ne sais quoi, elle a tout de suite dit, mets-lui du chazir.
Non, ça pas tout de suite. C'est pas marqué tout de suite. C'est marqué, on lui met deux gouttes de chazir dans la bouche. Elle veut cette chazir. Elle a senti une odeur de chazir. Elle dit, si vous ne me donnez pas, je tombe dans les pommes. Donnez-moi vite ce chazir à manger. Alors, on ne va pas lui manger tout de suite. On lui donne d'abord deux gouttes. On va voir si ça s'est calme, si elle s'est calme. Alors, où nous sommes, vi'im laf, si elle ne se calme pas avec ces deux gouttes, machilonta rotef atzmo, on lui donne la soupe, on lui donne à manger la soupe, peut-être ça la calme. Vim imniata shadata mutab, si elle se calme, mutab, c'est bien. Vim laf, machilonto shuman atzmo, on lui donne même la viande. Ça veut dire qu'il semble que la soupe, elle est moins grave que la viande. Parce que pourquoi la soupe, elle est interdite? Medin tam ke ikar. D'abord, on avait déjà fait un peu, Tam ki kar, d'après certains tanaïm, c'est kemidera banan. Non, la halakha n'est pas comme ça. La halakha, que c'est midoraïta, mais, pas tout, on n'est pas chayav malkout. Le tam ki kar, c'est moins grave. En vérité, c'est machloket dans ton sotrouline. D'après la vie qui dit que tam ki kar, c'est chayav malkout, pourquoi d'abord la soupe? Qu'on dirait que la soupe, c'est moins grave que manger la viande même. Alors, vim lav, machinanoto, si la soupe se ne cale pas, machinanoto shumanatsmo. Donc, si quelqu'un il est dans un hôpital, il a besoin de manger, s'il peut manger la viande ou la soupe de la viande, pas kasher, si la soupe de la viande lui donne assez de force, mieux vaut manger la soupe que de manger la viande même. S'il a besoin de viande, on lui donne à manger la viande lui-même. Shein lecha davar shomet bifnei pikuach nefesh. Parce qu'il n'y a rien. Chez Omed, qui résiste devant Bikurat Nefesh. Omed, ça veut dire, est le debout. C'est-à-dire quoi, debout? Debout, ça veut dire, imagine un homme, il marche dans la rue, et il y a un homme qui se met debout, je ne vous laisse pas passer. Ça s'appelle, il se met debout pour empêcher que les gens y passent. En le chadavar, chez Omed Bikurat Nefesh, ça veut dire le Bikurat Nefesh vient, le besoin de Bikurat Nefesh vient, il arrive, les histoires de Khazir, il se dresse. Non? Monsieur Pikuach Nefesh, je ne vous laisse pas passer. Non, monsieur, vous vous couchez, monsieur. Toi, Issour de Khazir, couche-toi. Ne reste pas devant moi. Couche-toi par terre et je passe au-dessus. Le Pikuach Nefesh, il traverse, il ne se laisse pas bloquer. Il n'y a rien d'avoir Omed. Il n'y a rien qui peut bloquer devant le Pikuach Nefesh. Putz, Mabodazara, Gilma Rayot, Shvichodamim. Sauf ces trois verrotes. On a vu ça dans le Gemara Psachim déjà. C'est intéressant qu'on tombe sur nos pieds. Avodezara minalan, Avodezara d'où on le sait, de Tani on a vu dans la Braïta. Rabelezer omer, im neymar bachol nafshecha, lam neymar bachol mondecha. S'il est marqué, aime Dieu avec toute ton âme. Pourquoi il est marqué, aime ton Dieu avec tout ton argent? On parle de quoi? On parle d'Avodezara. Qui parle d'Avodezara? Le pasouk. Quel pasouk? Shema Israël, Hashem Elokein Hashem Echad. Écoute juif, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Echad, il est marqué Echad. Pour la parasha d'ailleurs, hier dans la parasha Tazria, c'est marqué Bruva el Aaron HaKohen ou el Achad mi Banav HaKohanim. Il y a marqué le mot Achad. Il y a dans l'hébreu le mot Achad et le mot Echad. Quelle est la différence? Il dit le Malbim, Echad, c'est unique. Et Achad, c'est un parmi d'autres qui sont pareils. Achad mi Banav HaKohanim. L'un de ses enfants. Il y a un enfant parmi d'autres enfants. Achad mi Banav HaKohanim. Un parmi d'autres. Et Echad, c'est un truc unique. Echad. Shema Yisrael, pas marqué, Shema Yisrael, Hashem Eloken Hashem Achad. Echad, unique. Alors, donc, crois à un Dieu unique. Après, on te dit, Ve'avta, et Hashem Elokecha, et tu aimes ce Dieu unique. Bechol avovcha, avec tout ton cœur. Tu l'aimes avec tout ton cœur. C'est-à-dire quoi? Tu aimes le Dieu unique avec tout ton cœur, même si tu dois donner ton cœur, même si tu dois donner ton âme. C'est-à-dire quoi? Et si quelqu'un il t'oblige de dire, voilà, je crois de Dieu, il abandonne la émouna dans le Dieu unique, eh bien, mieux vaut de ne pas dire des paroles comme ça. J'aime mon Dieu, je ne l'abandonne pas. Et même si ça coûte la vie, ça c'est la mitzvah de Avta Teshem Elekechem Bechol Avavcha. Alors, autrefois, il s'agissait d'Avodah Zara. C'est quoi Avodah Zara? Idolâtrie. Ça veut dire, il n'y a pas qu'un Dieu, il y a deux, il y a trois. Et si on demande à un juif, dit qu'il n'y a pas du tout Dieu, je n'ai pas Avodah Zara, je n'ai pas dit qu'il y a Dieu. C'est encore pire. Ça, c'est le top du top. Il n'est pas marqué dans la Torah, crois à un Dieu et pas à Dieu. D'abord, il est marqué, crois à un Dieu et n'imagine pas qu'il n'y a pas de Dieu. Et si tu crois qu'il y a un Dieu, il y a un et pas deux. L'un exclut deux et l'un exclut le zéro, évidemment. Donc, il n'y a pas de différence. Si on se trouve il y a 2 000 ans en arrière, chez les Grecs ou les Romains ou les Vikings ou n'importe où qui disent « crois de Dieu » à une dualité, on se trouve chez certains de, qui disaient après Dieu et se fait homme et croient en Dieu et en homme, au Papa et au Fils, ils sont équivalents ou à trois. Le Père et la Mère et le Fils, la Trinité, ou quelqu'un il dit « crois qu'il n'y a pas du tout Dieu ». Mais évidemment, c'est la même chose. La Torah, il dit « aime un Dieu et pas zéro ». L'athéisme, nier Dieu, c'est aussi comme Avodah Zara. Peut-être pire qu'Avodah Zara. Il y a une expression dans la Gemara, « Shani minut de Moshra minut ». Croire pas du tout à Dieu, c'est encore pire. Alors ça aussi, c'est mieux vaut qu'on donne la vie. Si quelqu'un, il doit pour une raison ou une autre, on lui demande la question, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Si tu dis, tu crois en Dieu, on ne te donne pas de parnassa, ras shalom, on ne te louera pas une maison, on ne te donnera pas la carte d'identité, ou ils disent toujours, ou ils disent carrément, si vous croyez en Dieu, on vous coupe la tête. Ça existait des cas comme ça. Il faut être athée, vous niez Dieu. Eh bien, c'est mieux de mourir, de ne pas nier Dieu. Et même si dans le cœur on croit, mais on le dit dans la bouche, ça aussi c'est un sort. Quand le goy il dit, vas-y, croyez à deux dieux, croyez à Bouddha qui est un dieu, eh ben, on n'a pas le droit, sinon je vous tue. Alors dis-le avec la bouche, mais tu ne crois pas. Ça ne marche pas comme ça. Dire avec la bouche, c'est Avodah Zara. Dire avec la bouche qu'on croit Bouddha, c'est Avodah Zara. On n'a pas le droit.
Ça. C'est valable, même si on est tout seul, ou c'est si en présence de 10 juifs, ce que vous venez de dire.
Même si on n'est pas en présence de 10 juifs, même qu'on est
seul. S'il y a un Allemand, il dit qu'il y a deux dieux, ou je te tue, il va partir, il faut quand même se laisser tuer.
Exactement, monsieur. Ça, c'est une chita, Rabbi Ishmael, qui dit « Avodah Zara, c'est de moi public », là, la halakha n'est pas comme ça. Il faut fermer, il y en a un qui n'a pas fermé, Rouven ferme. C'est même si on est seul, Avodah Zara, Gera Shvirdim, la halakha, il est comme le Tana, comme tous les Tanaïm, et même si c'est en privé. Bon, si en public, c'est autre chose, c'est toute la Averot. Si c'est en public, et la Kavana du Goy, c'est de vouloir faire fauter les Juifs, un Goy qui dit, vas-y, sois Mechalel Shabbat, pas parce que ça me fait plaisir, c'est parce que je veux que tu transgresses le Shabbat pour que tu m'attendes dans ta religion. En présence de des Juifs, il faut donner la vie. C'est pour tous les avérats du monde, il faut donner si c'est des Juifs, si c'est un Juif, on n'est pas obligé de donner la vie. Mais pour les trois avérats, même quand on est seul.
Vous auriez pris Shabbat, mais vous auriez pu prendre le lacet de la chaussure.
Je n'ai pas pris le lacet des chaussures parce que le lacet des chaussures, ce sont au Béchat Hashmad. C'est quand il y a un xéra contre tout un pays et pas contre une personne. Quand un goy comprend une personne, il dit transgresse Shabbat pour que je contre toi, mais ce n'est pas un Béchat Hashmad, il n'y a pas un xéra dans le pays. Dans ce cas-là, il faut d'avoir une avéra minatora, mais pas l'histoire de la chaussure. Mais quand le goy fait un xéra klalit, qu'il veut que les Juifs se plient. Là, il ne faut même pas changer les chaussures. Pour prendre des chaussures goy aussi, il ne faut pas les faire. Ça, c'est contre Béchat Hashmad. Alors, Bechol Nafshecha, Lama Ne'emar, pourquoi il est marqué? Alors, Bechol Nafshecha, tu aimes Dieu avec tout ton cœur et avec tout, Bechol Modech, avec tout ton argent. Alors, qu'est-ce que les gens, ils aiment plus? Ils aiment plus l'âme ou ils aiment plus l'argent? L'âme n'aimer b'chol mo'odecha. Il n'aimer b'chol mo'odecha. S'il est marqué avec tout ton argent, l'âme n'aimer b'chol nafshecha, si l'âme il est plus, ça suffit de dire aime Dieu avec tout ton âme. Je comprends avec tout l'argent. C'est-à-dire quoi tout l'argent? Tout l'argent, ça veut dire que un goy, il dit, transgressez Shabbat, sinon je vous enlève votre argent. Combien d'argent? Tout votre argent. Tout? Quoi, vous voulez que je vous paye 1000 euros pour ne pas transgresser Shabbat? Ah non, non, pas 1000 euros. Je vous vide votre compte. Et je vous enlève vos lunettes. Je vous enlève vos chaussures. Je vous enlève tout. Sinon, vous fumez une cigarette. Vous fumez une cigarette, je vous laisse tout. Vous ne voulez pas fumer la cigarette, je vous enlève tout. Alors quoi? Eh bien, il faut tout donner. Oui, il faut tout donner. Pour une cigarette ou pas fumer une cigarette, c'est phénoménal. Un juif, il se trouve à Paris, il veut rentrer à Sarcelles en voiture et le soleil se couche. On fait quoi? Ou on est sur la A1 à Saint-Denis et on est bouché dans un bouchon. Qu'est-ce qu'on fait? Et le soleil se couche. Il est là dans la voiture. Et ça n'avance pas. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Éteindre la voiture. Laisser la clé dedans. Avec le porte-monnaie. Et il va à pied. Et après. Après nous, le déluge. Ils vont venir embarquer. Bon, ça va coûter après dans la, comment on appelle ça, la fourrière. Et marchera à pied à la maison. C'est ça que la Torah demande. Atsum, c'est un grand Nisayon. Et qu'est-ce que je fais si j'ai 200 000 euros dans la voiture? Bon, j'ai jamais eu 200 000 euros dans la voiture. Je ne sais pas si j'aurai un jour. Je n'ai même pas eu 20 000 euros. Mais imaginons donc quelqu'un a 200 000 euros. À la grâce de Dieu. Ça passe ou ça casse?
Il dit au goy de le garder.
Oui. Non, là, si en vérité, si on a d'argent, on a le droit de porter pachot midal et tamot. C'est lui permis. C'est midrabanan. Il met l'argent dans sa poche. Il fait trois pas, et il s'arrête. Il fait trois pas, et il s'arrête. Il fait trois pas, et il s'arrête. Et comme ça, il passe dans la A1 jusqu'il sort. Il va se faire prendre pour un idiot, pour un fou. L'olam yehei adam shote kol yamav valihi rasha sha'achat lifnei HaKadosh Baruch Hu. Un homme, mieux vaut un homme que quoi, qu'on le considère comme un fou toute sa vie pour pas être rasha devant Hashem une minute. On va se faire passer pour un fou. Ouais, se faire passer pour un fou. Aïe s'enchilou l'Hashem. On ne tient pas compte. On ne permet pas un issur de raïta pour ne pas faire un chilul Hashem. On permet de faire un issur de rabbanan pour ne pas faire un chilul Hashem, si c'est un chilul Hashem, pas un issur Torah. Et encore, on va savoir qu'est-ce que ça fait le lachem. Bon, ça, c'est encore un autre paracha. Vous allez peut-être recevoir ce matin, je ne sais pas si vous avez vu là, il y a un quart d'heure, genre une demi-heure, un peu plus. J'ai envie un petit chouva, on parle un peu de Chilul Hashem, quelque chose pour ceux qui ont le truc de Moshe Uzan. Je ne sais pas si vous avez le truc de Moshe Uzan. J'ai touché un point de Chilul Hashem, mais bon. Alors, on va revenir ici. Si la Torah, elle a dit, Bechol Nafshecha, que quoi, tu n'as pas le droit de transgresser Avodah Zarah et mieux vaut donner toute ton âme, à plus forte raison, il faut donner tout l'argent. Mais peut-être tu vas dire, l'argent, tout l'argent, c'est plus. Il y a certaines personnes, peut-être, hein, si on leur dit, tu es d'accord que je t'enlève ton argent ou je te tue? Il y a certaines personnes qui disent, je peux pas vivre sans argent. Et il est demandé, premièrement, sans argent, je peux pas. Je connaissais la galère de la pauvreté. Une fois, il était SDF. Il a vécu des années tellement amères. À la fin, il a reçu par NASA et tout. Maintenant, quelqu'un dit fumer une cigarette sans jour, on enlève tout l'argent. Encore une fois, tout l'argent enlevé, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Eh bien, tu es moi. Il aime son argent maintenant plus que son âme. C'est possible.
Ça existe des gens qui tombent malades parce qu'on leur perd leur argent, parce qu'on leur prend leur argent. Ce n'est pas comme la femme enceinte à qui risque de perdre le bébé. Lui aussi, il risque de tomber malade.
Quelle remarque. Eh bien, nous sommes obligés de dire que la nature ne veut pas que l'homme y tombe malade. Il peut y avoir certaines personnes, mais ça ne s'appelle pas un danger de mort. Pour le moment, il n'est pas malade et beaucoup de gens, ils n'ont rien, ils ne meurent pas. Il y en a beaucoup des SDF, ils n'ont pas un centime, mais ils vivent. Et on peut s'en sortir. Maintenant, il peut exister un homme, peut-être, dans une certaine situation où Béhémet, sans argent, il fait une crise cardiaque. Si Béhémet, un type, il est cardiaque, et on lui dit, ou fume une cigarette, ou j'enlève l'argent. Et lui, il dit, le médecin m'a dit, il ne faut surtout pas que je rentre en tension forte. Je risque de faire une crise cardiaque, peut-être un hanam. Pour lui, ça sera permis de dire fumer une cigarette. Parce que, ben, si je dépasse la tension de 16 ou je ne sais pas, quand je ne connais pas, le médecin, il dit, vous êtes très fragile, un hanam. Dans ce cas-là, tu as raison. Mais ici, on part dans un cas, ah, le docteur Georges, il est là. Shalom aleichem. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Hey, Georgios. Oh, Hachem, vous êtes là, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Comment ça va, la santé? Hein, ça va?
Oui, grâce à Dieu, très bien, merci.
D'accord. Alors, où j'étais? Mais ici, on parle d'un homme en bonne santé. Un homme en bonne santé qui perd son argent, en principe, la nature supporte. La nature d'un bon homme en bonne santé supporte le choc. Donc, on n'est pas considéré en cas de danger.
C'est sûr que... S'il y a un doute pendant Shabbat, il y a un doute qui est ça maintenant. Qui, le monsieur, il se sent mal et 3 mois après, le pauvre, il décède de crise cardiaque.
Je n'ai pas entendu.
Et il y a un doute en vérité. On ne sait pas, le médecin, il ne peut pas dire, il ne peut pas trancher, dire oui, c'est très dangereux ou pas, mais il y a un doute.
Dans le doute, mystamment, un peu mechalel Shabbat, oui. Dans le doute, on fait toujours la chumra pour pikuach nefesh. C'est un clair. La chumra, elle est toujours à côté de garder la vie, pas la chumra de Shabbat. Ça fait que de raïta la chumra. Mais si un safek chilul Shabbat et safek pikuach nefesh, on verra après dans la Gemara, toujours le safek pikuach nefesh, il est gouverne.
Mais ça ne marche pas, Rav Mechila. La question, c'est est-ce qu'il doit faire Avodah Zara ou on lui prend tout son argent?
Non, Avodah Zara, non. On ne parle pas d'Avodah Zara, je parle de chilul Shabbat.
Ah, si c'est chilul Shabbat, oui.
Mais c'est... nous parlons de chilul Shabbat maintenant.
Mechila.
Avodah Zara, il faut donner de la vie, même s'il fait une crise cardiaque. Oui, moi je parle de Chilul Shabbat. Alors, c'est pour dire, si tu trouves un homme, si tu trouves un homme que son corps, est plus aimé chez lui que son argent. Il chérit plus encore que son argent. Donc, si la Torah elle avait dit, tu dois donner tout ton argent pour ne pas faire avodah zarah, il aurait dit, d'accord, tout l'argent, je suis prêt à donner. Mais l'âme, la Torah ne m'oblige pas. Alors, la kach ne m'abachol nafshecha. Donc, la Torah nous dit, avec toute ton âme, même si on te prend l'âme, si tu trouves un homme que son argent, il aime plus que l'âme. Donc, si la Torah, elle avait dit, tu donnes toute ton âme, tu donnes ta vie, d'accord, la vie, je suis prêt à lui donner. Mais tout l'argent, je ne peux pas. C'est une plus grande sahara pour moi. Il ne faut pas faire avant des rats. Maintenant, il a riot, ou je suis Hadami Minalan, dont c'est l'immoralité et l'assassinat. Assassinat, que ça vaut mieux de pas. Qu'est-ce si quelqu'un il est à médecin à l'hôpital et on lui demande de donner, comment ça s'appelle, Ritville, ça s'appelle un médicament là qu'il parle à le premier ministre. Bref. Hein? Ritville.
Hein? Ribotril.
Ribotril, je ne sais pas comment. Un médicament, on donne un
chloroquine. Chloroquine.
Mais non. Antibiotique.
Ribotril, c'est le ribotril. Le monsieur Alors, le pauvre, il disparaît très vite.
Un sédatif. Et alors, c'est pour enlever la souffrance. Mais en même moment, dans quelques heures après, il quitte le monde. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire un geste? On a la souffrance et ce geste-là, il enlève la vie de l'autre. On a le droit de tuer quelqu'un pour enlever.
C'est sûr que non.
L'euthanasie, on n'a pas le droit.
C'est sûr que non.
Ça dépend. Si quelqu'un souffre et qu'on lui donne de la morphine, eh ben, ça le calme. Seulement, c'est vrai que petit à petit, il va augmenter les doses et il risque de se mettre dans sa canne et de mourir de ce fait. Mais on a essayé de le soigner. On n'a pas voulu le tuer.
On parle de ribotril. Ça empêche de respirer. C'est au bout de 3-4 heures, c'est fini.
Rav disait qu'il nous avait enseigné.
Tu m'apprends quelque chose. C'est un hidouche. 3-4 heures de ribotril. Mais le ribotril, c'est un médicament qu'on prescrit à des tas de personnes.
Ça dépend de la dose, peut-être. Rav Brandt, le Rav Zizek,
il
nous
m'a. Non, mais quand ils sont quand ils sont sous respirateur, on donne du ribotril, c'est mortel.
Rav Brandt, Rav Zizek, il nous avait enseigné que on avait le droit de supprimer un bruit qui fait tac, 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 qui maintient en vie une personne. Ça, c'est quelque chose de passif. Mais si jamais on fait activement, ça, c'est interdit.
Mais c'est pas Rav Zizek qui a inventé ça, c'est
marqué. Non, il nous avait enseigné. J'ai pas dit qu'il a inventé, j'ai dit qu'il nous a enseigné ça.
C'est marqué sur Shulchan Aruch. C'est marqué sur Shulchan Aruch. Ce qui empêche la mort, au moment que la mort arrive, et il y a quelque chose étrangère qui empêche la mort.
C'est une servante.
Droit, et, quoi?
C'est une servante qui faisait ça.
Et il y a quelque chose extérieur qui empêche la mort, eh bien, on a le droit d'empêcher l'empêchement. C'est pour ça, si on m'aurait écouté à moi, si la solution, si un hôpital il veut se comporter selon la Torah, et un homme arrive au coma ou presque au coma, et on va essayer de le sauver, et 24 heures après, on saura si on peut le sauver ou pas, disons. Alors, si on va l'accrocher, si on va l'accrocher à de l'oxygène global de l'hôpital, on met une machine à respirer globale, et après on voit que ça n'y a aucune solution, il va rester légume, c'est, on ne peut rien faire, il va rester légume. Alors on veut arrêter la machine. Alors arrêter la machine, c'est possible que ça n'ait pas chanika, mais pas tout. Arrête la machine, donc tu l'étouffes. Alors quelle est la solution? Ma solution, c'est que quand on accroche, il faut avoir une minuterie, disons de 24 heures oxygène. On accroche pour 24 heures mais oxygène. Si on voit qu'il y a un espoir, on ajoute encore 24 heures. Encore 24 heures, jusqu'on s'en sort. Si on voit qu'il n'y a rien à faire, alors dans ce cas-là, si on ne fait rien, on ne fait rien. Donc après 24 heures, il va quitter le... monde. La mort va intervenir. Mais l'oxygène est étrangère à la personne. Je ne suis pas obligé. Alors, c'est pas même, si c'est déjà dans la bouche, c'est pas étrangère. C'est maman, c'est la respiration. Donc, arrêter, je ne peux pas parce que ce n'est pas étrangère. Mais si j'ajoute pas, j'ai rien fait. Mais par contre, si dans l'hôpital, il y a dans la cave de l'hôpital, il y a de l'oxygène pour une année, et on accroche la machine à cet oxygène, alors dans ce cas-là, le fait que quoi, que tu accroches, tu débranches, c'est grave. Ou s'il y a une perfusion, alors on peut poser, si on met une perfusion, on met une perfusion pour quelques heures. Si on voit qu'on ne peut rien faire, et on n'ajoute pas la perfusion, c'est vrai, si on n'ajoute pas la perfusion, on n'a pas fait d'acte. Mais alors, il va se dessécher. Ça, c'est une grande souffrance. Ça, c'est une grande souffrance. Alors, faire un médicament pour raccourcir, ça, c'est lentement. Tu. Et de l'autre côté, on n'ajoute pas. Alors, si...
Pour ce Vincent Lambert, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté sans débrancher. Ils ont arrêté les perfusions de le nourrir.
Mais arrêter nourrir ou ils ont débranché?
Non, ils ont arrêté de nourrir. Et à part ça, qu'est-ce qui dit que la souffrance, c'est pas quelque chose pour lui, une capara? Ou je dis pas qu'on doit lui faire des souffrances, mais si les souffrances elles viennent des mêles de la maladie, de la fin de la vie, qu'est-ce qui nous oblige nous à intervenir sur ça, un médecin?
C'est toi, Monsieur Messica, qui l'a dit en André Vizizek. Oublie, rappelle-toi.
Non.
Oui. Rappelle-toi ce qui était dit il y a 5 minutes. Rappelle-toi que si quelque chose étrangère empêche la sortie de l'anachama, on a le droit de dire « arrête de taper pour que l'anachama sorte ». Il est marqué sur Shulchan Aruch, le mot « souffrance ». L'anachama veut sortir, elle souffre, et quelqu'un y tape l'extérieur, boum, 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 boum. À cause de ça, l'anachama ne peut pas sortir. On a le droit de lui dire « arrête de taper pour que l'aneshama sorte ». Ça veut dire, nous n'allons pas dire « continue à taper pour que l'homme y vit et il souffre plus et la souffrance est bien pour lui ». On ne raisonne pas comme ça. On raisonne le moment que la mort arrive et il souffre, eh bien c'est mieux pour lui qu'il ne souffre pas, qu'il quitte. Seulement, je n'ai pas le droit de faire un geste d'accélérer la mort. Mais j'ai le droit d'enlever ce qui empêche. Donc, on voit qu'on ne raisonne pas de lui ajouter de la souffrance. On ne fait pas un geste allonger la vie d'une souffrance. C'est ça qui est marqué sur Shulchan Aruch. Quand le moment de la mort arrive. Maintenant, ça, c'est quand le moment arrive. Parce qu'il y a être la ledette et être la moute. Il y a un moment de naître et un moment de mourir. Quand le moment de mort elle arrive, on n'est pas obligé de l'empêcher. Mais si ce n'est pas le moment qui arrive, c'est 2 jours avant, et il souffre, ça c'est. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter les soins pour pas qu'il continue à souffrir? Peut-être c'est seulement au moment de la mort, au moment que c'est l'accès, ça, on peut se poser la question. Alors, où nous sommes? Alors, en tout cas, une chose, il est sûr, même si on va dire que 2 jours avant, aussi, on n'a pas le droit de le priver de la vie, mais c'est toujours mieux de le priver de la vie que de lui enlever la vie. De ne pas donner une perfusion, c'est moins retira de le tuer.
Si on peut le faire que le jour de la mort, personne ne connaît le jour de la mort.
Non. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Quand il y a l'axissa et on voit qu'il est en train de mourir, c'est ça qu'on appelle le moment de la mort. Et on voit qu'on ne peut rien faire, ça s'appelle le moment de la mort. Le Shulchan Aruch, quand il dit on peut demander à un autre arrête de taper, ça veut dire que la Torah permet de dire ça c'est la mort et j'ai le droit de demander à l'autre. Pas besoin de raisonner, miracle, pas besoin de raisonner comme ça. Non, mais il est vieux, ça s'arrête, c'est le moment de la mort.
Mais Rabouant, excusez-moi, il y a des. Maintenant, les hôpitaux, ils n'ont pas assez de comment on dit, d'appareils pour la respiration. Alors, quand ils voient un monsieur qui. Ils savent qu'il va mourir, ils savent, ils lui donnent un médicament, il dit à la famille, venez, je pense que votre père, ou je ne sais quoi. Et pour le donner à un autre malade qui est plus jeune, qui a plus de chance. Est-ce que ça, c'est aussi. C'est ce qu'ils font, hein, je pense. Hein.
Ouais, il faut réfléchir à ces questions. Ouais. Alors, où nous sommes? Le jour que les médecins ils demanderont la question à un rabbin, le rabbin doit répondre. Au moment où les médecins ne demandent pas le rabbin, donc le rabbin n'est pas obligé de répondre. Pour le meilleur ou pour le pire, en tout cas, on ne demande pas le rabbin. Pour le moment, on ne demande pas le rabbin. Quand le Messie va venir, il sera obligé de demander le rabbin. Il y a un Gemara dans Masechet Chulin d'Af Mem, un Gemara un peu embriqué. La Gemara nous dit qu'il y avait un Rav qui s'appelait Oula, il est monté de Babylonie en Eretz Israël. Et il est parti avec un monsieur d'une ville Pompadita. Et l'autre, c'est un nerveux, un fou furieux. Alors, ils étaient sur la route, trois personnes. Oula, avec ce hyper nerveux, avec une troisième personne. Sur la route, il avait été un incident que ce type, il a énervé le nerveux. Et le nerveux, il a pris un couteau, il l'a tué. Mais il ne l'a pas tué entièrement, il l'a tué à trois quarts. Alors, après qu'il a tué à trois quarts, il a regardé sur Oula. Il a dit à Oula, hein, j'ai bien fait, non? Il m'a énervé, j'ai bien fait. Je ne suis pas un assassin, non? Alors, on lui dit, oui, tu as bien fait, mais mieux vaut le tuer entièrement. Après, Oula, il est revenu en Eretz, il a rencontré Rabbi Yochanan. Il a dit, Rabbi Yochanan, est-ce que je fais une avéra de Khanifut? Pourquoi? Un homme était assassin et il me demande si j'ai bien fait ou pas. Et moi, je dis, tu as bien fait. Alors, j'ai fait Khanifut. Khanifut, ça veut dire embellir un péché, dire sur un péché que ce n'est pas un péché. Je lui dis, c'est bien, tu as bien fait. Donc, je dis, un assassinat, que c'est bien, c'est l'histoire de l'autre, Khanifut, arrête. Alors, Rabbi Yochanan dit, tu avais le droit de le faire. Parce que si tu ne l'avais pas fait, il t'aurait tué aussi. Un tel excité, si tu dis, tu es un assassin, il te coupe aussi la tête. Donc, tu te sauvais ta vie, tu as bien fait. Voilà, ça c'est la Gemara. Bon, elle est compréhensible. La question, il est comme ça. L'issur de l'autre Khanifu fait partie de Tariag Mitzvot. Alors, on n'est pas obligé de donner la vie pour ne pas transgresser l'autre Khanifu. On a le droit de transgresser en cas de danger de mort, on a le droit de transgresser l'autre Khanifu comme on a le droit de transgresser Shabbat. Mais là-bas, lui, il a dit, coupe-lui la tête entièrement, tue-la entièrement. Tuer, c'est un assassinat. Est-ce qu'un homme a le droit de demander à un autre de tuer pour qu'on ne le tue pas lui? Quand on dit il faut donner la vie, il faut donner la vie et pas transgresser le tirtzach. Est-ce qu'il faut aussi donner la vie pour pas demander à un autre de tuer? Si on dit à quelqu'un, dis à lui de tuer, sinon je te tue. Est-ce que de dire de tuer, est-ce que c'est aussi une retzicha? C'est une retzicha pas dans le sens qu'on est chayav mita. Mais est-ce qu'on transgresse Retzicha? Par exemple, si on tue avec grama, indirect, on n'est pas chayav mita. Si on dit à un homme, tue l'autre avec une grama, sinon je te tue. Est-ce que nous allons dire? Étant donné que tuer avec grama, on n'est pas chayav mita, donc on a le droit de tuer avec grama. Odile maintenant, tuer avec grama aussi, c'est l'otirtzach.
Vous nous avez enseigné qu'il n'est pas chayav mita. Tribunal terrestre, mais
il y a Hayab des Shamaïm. Oh, Hazak ou Baruch, tu es Begrama, on a Hayab Mita Bede Shamaïm. Ou Memeile, est-ce que pour ne pas transgresser le Retzicha dans la Madriga de le Patre Habit et des Shamaïm, est-ce que pour ça on est obligé de donner la vie? Alors je vais prendre un Rambam, une seconde.
Mais celui-là, il était mort à trois quarts. Ça veut dire quoi? Il a abrégé ses souffrances.
Qu'est-ce qu'il fait Ravuna avec un fou pareil?
Attendez, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé avec cette histoire. Vous croyez qu'on a déjà terminé? D'abord, je lis le Rambam. Kol ha-horeg, havero beado. Chacun qui tue l'autre avec sa main, avec une épée, avec une pierre, avec une sourde, alors il est chayermita. Il mérite mort au bedin. Avant le socher horeg la harog et havero, un homme qui loue un assassin. Oshéchel achavod avorgu, il a envoyé ses esclaves pour le tuer. Oshékafto v'nichol ifnari, où il a attaché les mains et les pieds devant le lion. Alors, tout cela, c'est un chauffeur d'amim. V'avon hariga biyado, v'chayav mita le shamaim, v'en ben mita de bedin. Il ne mérite pas la mort au bedin, mais il s'appelle chauffeur d'amim et il a le péché de tuer. Qu'est-ce que la Rambam veut nous dire? Il est un chauffeur d'amim. C'est quel halakha? Vis-à-vis de quel halakha? Le Rambam, il parle comme ça, dans l'air. Il dit, c'est un chauffeur d'amim, mais il ne mérite pas la mort au bedin. Mais il mérite la mort au chayav mita bedin shamay. Il mérite la mort vis-à-vis du ciel. D'accord? Il mérite la mort vis-à-vis du ciel. Et pourquoi il dit, c'est comme un chauffeur d'amim? Non, pas comme un chauffeur d'amim. C'est un chauffeur d'amim. Et il a le péché de tuer. Et il est chayav mita bedin shamayim. Pourquoi il appuie dessus? C'est pour dire qu'il a un din de chauffeur d'amim. Et pour chauffeur d'amim, on a vu dans la Gemara qu'il faut donner la mort. Il faut mieux vaut mourir pour ne pas faire chauffeur d'amim. C'est pour dire que si on dit à un homme, tue l'autre indirectement, quand tu loues à quelqu'un, eh bien mieux vaut de mourir pour ne pas le dire. Il ne faut pas louer quelqu'un pour tuer. Et voilà, c'est ça le fait. Donc, on a une question sur la Khouline. Comme Oula, il a dit à ce fou, vas-y, tue-le. Comme il a dit, vas-y, tue-le. Étant donné que tu vas lui demander donc de faire un chich fichou d'amim? Vous entendez la question? Bislam, vis-à-vis de l'av de l'otachanifou, qu'il a embelli le péché. Oh, ça, on veut dire un péché, ça, on n'est pas obligé de mourir pour ça. Rabbi Yochanan a dit, si tu n'aurais pas agi comme ça, il t'aurait tué. Donc, tu as le droit de transgresser ça. Mais comment tu peux lui demander de le tuer? Mais le pshat, il est que là-bas, l'autre, de toute façon, est un chauffeur d'amim. L'autre, il a déjà tué trois quarts. L'autre, il va mourir. La question, elle était s'il va mourir dans 2 minutes, il va mourir dans 5 heures. L'autre, il a tué, il a mis d'une façon que l'autre, il va mourir. Donc, si on ne dit rien, l'autre aussi va mourir. Il va mourir dans 5 heures. Maintenant, il a dit, si de toute façon tu le tues, autant le tuer avec moins de souffrance. De toute façon, tu es chayav. De toute façon, l'autre l'a excité, il a retzicha. Si on fait une retzicha, autant de faire que l'autre souffre moins. Donc ça, il n'y ajoute pas du shvichu damim. Ce n'est pas une nouvelle avera. Il a déjà fait. S'il ne tue pas maintenant, il sera chayav dans 5 minutes, dans 5 heures. L'autre il sera mort et lui il a fait déjà le geste de le tuer. Donc si on fait déjà le geste de tuer, on peut déjà le tuer sans souffrance. Mais quand on n'a pas tué, de tuer pour enlever souffrance, ça c'est pas moi qui est dans la Gemara. Ça c'est même l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa Lichora. Lichora marche sur le même sens. Lichora. Rabbi Hanina ben Dosa le goy, il a allumé le feu, il a brûlé et après il a dit à Rabbi Hanina ben Dosa, les élèves, ils ont dit, ouvrez la bouche comme ça, vous allez mourir et plus vite. Il a dit, non, moi, je ne vais pas accélérer ma mort. Après, le gars, il a dit, mais moi que je vous ai allumé, si je vous ajoute maintenant du bois pour que vous mouriez plus vite, est-ce que j'ai une récompense? Il a dit, oui. Alors, le gars, il a enlevé le cimetière avec de l'eau, il a ajouté, il a eu la maba. Mais il fait un geste de tuer, mais lui, de toute façon, il l'a fait. Il a déjà allumé le feu, il ne pouvait plus l'éteindre, le feu. Les Romains, ils étaient autour. Le bourreau, il ne pouvait plus arrêter, parce que les autres Romains ne l'auraient pas laissé. Donc, la seule chose, que le laisser le rabbin comme ça, il va mourir dans 5 heures, ou d'augmenter le feu, il va mourir dans 5 minutes. Et de toute façon, il est assassin. S'il est déjà assassin, c'est déjà un mitzvah de faire d'une sorte qu'il ne meurt pas vite, et qu'il meurt sans souffrance. Alors, on va continuer.
C'est pas Rabbi Hananiah ben Tradjon, plutôt?
Et j'ai dit quoi?
Ben de ça.
Eh bien, tu as raison. C'est Berchini les mêmes traditions, c'est juste. Bravo, Nazarayouza. Tu as raison. Alors, où nous sommes? Gilarayot Vishikh de Minar, les datans, les Rebbe Omer. On a déjà vu Santo Psachim. Je ne sais pas si tout le monde il était quand on a fait Santo Psachim. Comme un homme qui s'élève contre son copain, il l'a tué. Ainsi est cette chose aussi. Que quoi? On parle qu'un homme, il a pris une fille qui était fiancée avec un autre. Il a fait un péché avec elle. Donc lui doit mourir. Mais elle, on ne lui fait rien. Pourquoi? La fille, elle n'a pas et ne mérite pas la mort. Pourquoi? Parce que la pauvre, elle était victime. L'autre, elle a menacé. Car comme un homme qui s'élève contre l'autre, il le tue. Qui est l'agresseur? C'est qui, ce qui tue? L'autre, c'est une victime. Et bien, cette fille aussi, elle est une victime d'un homme violent. Donc, elle ne mérite pas la mort. La mort mérite le méchant, mais pas la victime. De la même façon qu'un homme s'élève contre son copain, Rotsoron est fait, il a tué. Comme ça, il est aussi cette chose-là qu'elle est victime. Alors, la Gemara demande, pourquoi la Torah est obligée de justifier le ptour de la fille avec la comparaison avec un assassinat et la victime? La Torah, elle peut expliquer elle-même. L'eau, il a agressé cette fille, elle était victime, elle n'était pas fautive, elle était menacée, donc elle s'est laissée faire, c'est pour ça qu'elle ne mérite pas la mort, point, ça suffit. Pourquoi elle est trop obligée de donner une explication? Vous savez, ça ressemble à un homme qui tue l'autre, alors c'est le rotser qui n'avait pas la victime. Qu'est-ce que c'est tout ce pile-poule? On a compris l'idée, même si tu restes, donc il a rien. Et là, c'est pour dire, Arazé Balelamet. La Torah met ça comme si Balelamet, comme si on veut enseigner de Retzicha quelque chose sur Nahar Morassa, et Mitzia Lamet. En vérité, c'est le contraire. La Torah raconte ici l'Inya de Retzicha pour que la loi de Retzicha, on apprend quelque chose de Nahar Morassa. Ma Nahar Morassa nitan l'atzil benafcho, afrotsef nitan l'atzil benafcho. Il y a une halakha que si quelqu'un y voit comme un homme, il veut faire un avéra avec un aramorassa, et il peut sauver la fille, mais il ne peut sauver la fille qu'en tuant l'agresseur, eh bien, il a le droit de le faire. Parce que c'est marqué, en moshiala, que tsaaka anara amorassa, ven moshiala. Elle crie qu'on la sauve, ven moshiala, personne n'est intervenu. Mashma, que ça aurait été mieux qu'on intervient. Mais c'est plus chaud que c'est mieux d'intervenir. La Torah n'a pas besoin de lui dire. Mais évidemment, il faut intervenir. Quel est le chidouche de la Torah qui est un mitzvah d'intervenir? La mitzvah, elle est intervenir jusqu'au bout, même si l'intervenant, il doit tuer l'assassin. Il n'y a pas l'assassin, ceux qui pourraient en avoir avec elle. Ça, c'est le chidouche. Le chidouche, c'est le nitan, la hatzila, benafsho. Il est permis de la sauver, benafsho, avec l'âme de ceux qui agressent. Alors, de la même façon, pour la Nahar Morassa, on a le droit d'intervenir, même si ça coûte le nefesh d'agresseur. La même chose pour Retzicha. Et si Rouven, il veut prendre l'âme de Shimon, et Lévi veut sauver Shimon, mais il ne peut le sauver qu'en prenant l'âme de Rouven, eh bien, il a le droit de le faire. Ma Rotzeach. Alors, donc, Nitzal Menafcho, Av Rotzeach. Maintenant, ça, c'est une dracha. Et maintenant, il y a une deuxième dracha. Donc, on apprend de Nahar Morassa, un halakha de Retzicha. Et maintenant, le contraire aussi. On apprend un halakha de Retzicha pour un halakha de Nahar Morassa. Ma Rotzeach Yerik Valievo. Comme je Rotzeach le dit, il est vivant, je se laisse tuer pour ne pas transgresser. Af Nahar Morassa Yerik Valievo. Quand on demande un enfant à Vera, fait une immoralité. Sinon, je t'enlève ton ID. Mieux vaut que perdre la vie pour ne pas transgresser.
Et s'il y a une femme, on lui demande de faire une bêtise?
Je laisse faire une bêtise, tu veux dire?
Ah oui, parce que la femme, elle est passive. D'accord.
On demande à une femme de laisser faire une bêtise, sinon on la tue. Elle a le droit de se laisser faire. Ça, c'est le long tossot ici. Un petit tossot. Vous voyez le petit tossot? Il commence Paybet Amod Aleph et il finit Paybet Amod Bet. Tout gentil ce petit torse-là. Alors, le Rotsé Argouf Minalan et le Rotsé Ardou, on le sait, d'où on le sait que quoi, que mieux vaut de ne pas transgresser, même si ça coûte la vie. Svarahou, c'est une logique. Cette logique, Rava l'a exprimée dans un cas qui se déroulait. Pas une théorie, c'était une pratique, un cas pratique. Daouda Telekame de Rava, ce qui est venu devant Rava, Amalé lui a dit, Amlimar et Ouraï, le maître du pays, le maire imadiste, un orfri, Katlé le plan, y a-tu l'autre vilo, sinon Katlin ne l'achète-tu? Comment je dois agir? Amalé dit, Nick te la raconte-tu, vilo tiktol, et toi tu tues pas. Marie Chazit et Dame et Darsum Maktfei, dit Madame Daou Gabrasum Maktfei, qui te dit que ton sang, il est plus rouge, peut-être le sang de l'autre personne est plus rouge. Alors, tu ne connais pas la valeur des gens. Comme on ne connaît pas la valeur des gens, alors il ne faut pas intervenir. Reste un sadique et ne tue pas. Ne dis pas, je vais tuer et je vais sauver quelque chose. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu sauves, mais je me sauve moi-même.
Et si je sais que c'est un rachat?
Ce n'est pas marqué dans la Gemara qu'on fait une différence. Pas marqué.
Il y a une différence de sens.
Question. Il y a une vieille question. La question, elle est comme ça. Il y a une Mishnah de Maseret Horayot. Et si deux personnes y sont tombées dans l'eau et on veut sauver, si on peut sauver les deux, on sauve les deux. Si on ne peut pas sauver les deux, on ne peut sauver qu'un. On ne sauve qu'un. Voilà. On ne peut pas sauver les deux. Tu as une bouée. Alors, tu as une bouée, tu sauves un. Maintenant, est-ce que je choisis n'importe lequel, un des deux, au pif, ou est-ce qu'il y a certaines priorités? Alors, la Mishnah dit qu'il y a certaines priorités. Lui, un Kohen vaut plus qu'un Lévi, un Lévi plus qu'un Israël. Un Kohen, un Lévi, on sauve d'abord le Kohen, il a plus de Ketusha. Lévi Israël, Lévi, il a plus de Ketusha. Un Mamzer, un Stam juif, un Mamzer, le Stam juif, il a plus de. Un Chacham et un Maharetz, un Chacham, il a plus.
Si le Kohen il a 100 ans et le Lévi il a 20 ans, on va sauver qui?
C'est pas marqué dans la Mishnah.
D'accord.
Pas marqué dans la Mishnah.
Et si le Kohen il n'est pas Chacham et le Lévi il est Chacham?
Alors c'est le Chacham d'abord. Même le Mamzer. Le Mamzer Chacham, il est avant le Kohen. Même si le Kohen il sera Kohen Gadol. Kohen Gadol Amaharetz et Mamzer Tamit Chacham, Mamzer Tamit Chacham Kadim. Si c'est le contraire, le Kohen Gadol il est Tamit Chacham et le Mamzer il est Amaharetz. Hein, quel sera le din? Alors,
le Kohen Gadol.
Bien sûr. Alors, maintenant la question elle est comme ça. La Mishnah nous dit donc quoi? Que nous mettons, oui, des appréciations, des valeurs. Kohen vaut plus que les Lévi. Donc maintenant, ici, si on demande à un Kohen, tue le Lévi, sinon je te tue toi. Alors on dit, tu n'as pas le droit de tuer Lévi. Pourquoi? Qui te dit que ton sang, il vaut plus? Peut-être le sang de l'autre, il vaut plus. Peut-être le Lévi vaut plus que toi. Mais la Mishnah nous dit dans Horayot que le Kohen vaut plus que le Lévi. Alors, il y a quelque chose qui tourne par an. Dans la Mishnah Horayot, on dit le Kohen vaut plus que le Lévi. Si on dit, on ne sait pas.
Mais parce que là, c'est à une tierce personne. Là, c'est une tierce personne, mais vive, sa propre vie, elle vaut plus que toutes les autres vies.
T'as entendu?
Sa propre vie, elle vaut plus que toutes les autres vies. Mais là, il y a une tierce personne. C'est à toi de choisir entre deux personnes. Si tu choisis entre toi et un autre, c'est toi.
Je n'ai pas compris. J'entends ce que vous dites, mais ici, on nous dit mieux vaut mourir pour ne pas tuer les Lévi. Mais moi, je suis Cohen et lui, il est Lévi. Alors, pourquoi je n'ai pas le droit de préférer ma vie? C'est ma vie, en plus, je suis Cohen. D'abord, c'est ma vie, en plus, je suis Cohen.
Mais parce
pourquoi
que là...
Parce que c'est moi, je n'ai pas le droit de préférer le Cohen, parce que c'est moi. Alors, c'est le contraire. C'est moi, plus je suis Cohen.
Quoi, j'ai pas le sang du Cohen, il est plus rouge.
Quoi?
Le sang du Cohen, il est vraiment plus rouge que le sang du Lévi.
Sûrement pas.
D'accord, attends, on va aller jusqu'au bout avec Dr Bokobza. Tu dis le sang du Cohen, il est vraiment plus rouge. Alors pourquoi le Kohen il n'a pas le droit de tuer les Lévi pour se sauver? Va jusqu'au bout de ta parole. Vas-y. Allez. Ici, on dit, on demande un homme, on demande un Kohen, tue le Lévi. On nous dit, je n'ai pas le droit de tuer l'autre parce que qui me dit que mon sang vaut plus que l'autre? Tu dis que le sang du Kohen, il vaut plus rouge. Alors vas-y, donc pourquoi le Kohen ne peut pas tuer le Lévi? Parce que c'est pas sûr. Parce que c'est pas sûr que le sang du Kohen, il est plus rouge que le Lévi. Alors si c'est pas sûr, pourquoi la Mishnah dans Horayot, il dit que oui?
Parce que dans Horayot, le seul élément qu'on a, c'est Kohen-Lévi. C'est les seuls éléments qu'on a. On n'a pas d'autres. Alors que dans le cas où on doit aller tuer quelqu'un, on n'a aucun élément, quoi. On n'a pas...
Non, parce que tous les deux, ils sont en danger de mort. Là, je ne vais pas mettre le danger de mort sur l'autre. Là, c'est moi qui suis en danger de mort, c'est moi qui suis dans l'eau. Mais là-bas, il y a deux dans l'eau.
Mais ça, tu dis la même chose qu'il a dit avant, qu'il a parlé avant. En quoi c'est une raison de me priver, de me sauver? Le fait que c'est moi en danger, j'ai encore plus de raisons qu'on doit me permettre de me sauver.
C'est dans un cas où la verlan... Sauver et tuer quelqu'un ou sauver, c'est la même chose.
Voilà. Azak, bien parlé.
Là, ici, c'est la différence. Dans la Mishnah Horayot, on ne parle pas de se permettre de tuer. On parle de sauver quelqu'un. Il y a une mitzvah de sauver. La mitzvah de sauver les deux. Mais je n'ai pas de possibilité. Je peux sauver qu'un, hein? Donc je sauve un. Comme on peut sauver qu'un, hein? On cherche lequel vaut plus. Alors on dit, hein, logique de dire, peut-être le Kohen vaut plus. On peut dire un Kohen vaut plus. Un Kohen, il a une qualité. Cette qualité fait que je dois d'abord sauver le Kohen et pas le Lévi. Mais cette qualité ne permet pas de tuer. Pour tuer, il faut sauver quelqu'un de la mort. Mais ici, il y en a deux. Comme il y en a deux, je ne peux pas me permettre de tuer. La différence entre Kohen et Lévi ne suffit pas pour permettre une Retsicha.
Mais là, dans le cas là, je me sauve à moi. Quand je tue l'autre, je me sauve. Ça s'appelle sauver.
Et tu n'as pas le droit, même pour te sauver. Toi, tu ne peux pas tuer.
Pourtant, c'est moi, c'est pas les autres, c'est moi.
Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Je comprends bien. C'est toi. Mais pas parce que c'est toi qu'on te permet de tuer. On ne te permet pas de tuer parce que toi, tu es en danger. Alors. Alors, il y avait une histoire. Il y avait une comment il s'appelle, une femme enceinte. De Archa, qu'elle a senti. Donc, on arrive à Yom Kippour. On revient.
Et si on est dans un cas où le monsieur te dit, je te tue toi ou je tue l'autre. Mais si toi, tu tues l'autre, alors je te tuerai pas. Donc, j'ai le cas où je peux sauver l'un ou l'autre. Mais moi, en donnant ma vie, je sauve l'autre.
Répétons
alors, cas. Alors, c'est permis de le tuer.
Répétons cas.
Et le monsieur vient, il dit, je vais tuer les deux. Je te sauve toi si tu tues l'autre. Ou bien l'autre, s'il te tue, lui, il se sauve de toi.
Il se sauve de toi. Pas clair, je ne comprends pas. Pas faire un cas clair.
Le monsieur vient me voir et dit, écoutez, tu tues l'autre ou je te tue. Ok, ça c'est clair. Ok, donc moi, je peux me sauver. Mais maintenant, l'autre aussi, il est dans le matzav que le goy, après, il va le tuer. Donc, c'est-à-dire que moi, si je le tue, peut-être que je vais sauver ma vie et de toute façon, l'autre, il va mourir. Peut-être que le goy, il va décider après de tuer l'autre.
C'est le même, le même cas que livrez-nous, monsieur machin, on vous tue tous. Est-ce qu'on a le droit de livrer?
Ça, c'est un autre cas.
Ah bon?
Et qu'ils disent, les goyim, ils disent, donnez-nous un homme, on va le tuer. Sinon, on va massacrer tous. Ils doivent se massacrer tous et pas prendre un et le tuer. Ça, c'est le Mishnah de Troumot. Maintenant, ici, la question, elle est, ça, c'est le coucher des Kesef Mishneh. Mais ici, ça ne marche plus, la logique. Ici, dans notre Gemara, on dit, on n'a pas le droit de tuer l'autre parce que de toute façon, il va mourir. Mais dans ce cas-là, la question, si un, il meurt ou deux, il meurt. L'autre, de toute façon, il va mourir. Ça, c'est le coucher des Kesef Mishneh. Comment ça se fait, le Mishneh de Troumot, mieux vaut de mourir pour de pas tuer l'autre et de mourir? Parce que qui me dit, moi, je vaux plus que l'autre. Mais dans le cas où l'autre, il meurt de toute façon, Alors, il va de toute façon mourir. Alors, pourquoi je ne me sauverai pas? Parce qu'on n'a pas le droit de tuer pour se sauver. Mais ici, la logique de la Gemara ne marche plus. Ça, c'est le coucher de Kesef Mishneh.
Pour éviter le chantage.
Alors,
pour éviter le chantage.
Alors, ça, c'est un pirouche comme ça. Comme ça. Il y avait un Eretz Israël, un Rav, un Rabbanout, il s'appelait Rav Israeli. Israël, j'oubliais son prénom. Yaakov Israël, je ne me rappelle pas comment il s'appelait. Rav Israeli. Lui, il a dit cette tirouz. C'est un dîne dans le chantage. Mais la Kesef Mishneh, il me semble dit autrement. La Kesef Mishneh, je pense, il dit comme ça. En vérité, on a ici deux cas. Un cas de Gil Arayot, un cas de Shfichut Damim. Maintenant, chez Shfichut Damim, la Gemara nous dit que c'est une svara. Et de cette svara qu'on a dit pour Shfichut Damim, on a appris Gil Arayot. Mais chez Gil Arayot, n'existe pas cette svara. Alors, quelle est la svara de Gil Arayot? La svara qui me dit que moi je suis plus et la raison de Gil Arayot. Parce que le péché de Gil Arayot, il est tellement grave qu'on n'a pas le droit de transgresser, même s'il faut donner la vie. Si en question de transgresser le péché de Gil Arayot ou la vie, on dit mieux vaut pas salir son âme avec ce péché, mieux vaut mourir pour pas salir son âme avec ce péché. Ça, c'est chez Gil Arayot. Maintenant, chez Retzicha, il dit c'est aussi ça. Mieux vaut ne pas transgresser la vera de Retzicha, même si coûte la vie. Ah, la Gemara n'a pas dit ça. La Gemara nous a dit, à cause de la svara qui me dit qui est plus rouge, mais la Gemara nous dit la svara avant d'avoir la pasuk. La Gemara nous dit comme ça. Qui me dit que Retzicha ou Shvichut Damim, il faut donner la vie. Shvichut Damim, svara ou. Avant que j'ai des psukim, je ne sais pas si Retzicha c'est tellement grave comme on voit des Arabes. Peut-être que ce n'est pas tellement grave. Sur ça, on dit, mais il y a une svara qui me dit que ma vie vaut plus que l'autre. C'est une svara. De cette svara, la Torah l'a comparé à Gil Arayot. Mais chez Gil Arayot, cette svara ne marche pas. Donc chez Gil Arayot, c'est une autre svara. Quelle svara? Gil Arayot, c'est un péché tellement grave qu'il ne faut pas transgresser, même si ça coûte la vie. Très bien. Une fois que j'ai instauré chez Gil Arayot, c'est un péché tellement grave que mieux vaut pas transgresser. Je apprends maintenant sur Retzicha, que chez Retzicha, il y a une deuxième raison pourquoi on n'a pas le droit de tuer. Pas seulement à cause de la svara de Maï Chazit. À cause de la svara, c'est parce que la Retzicha, elle est tellement grave que mieux vaut de mourir pour ne pas la transgresser. Une fois que j'arrive à dire que Retzicha, c'est tellement grave, mieux vaut mourir pour ne pas la transgresser. Dans ce cas-là, même si l'autre, de toute façon, va mourir, mais moi, je n'ai pas le droit de transgresser. Le gars, il dit, vous le tuez, sinon je vous tue vous deux. Donc, tu veux que moi je le tue. Mais moi, tu veux, c'est un péché grave. Pour ne pas faire ce péché grave, il faut mourir. Ah, il n'y a pas la svara de Maï Chazit, mais Alpimet, je n'ai plus besoin de cette svara. Alpimet, le fait que le péché est tellement grave, ça suffit. Qui me dit que le péché grave suffit? Je l'apprends de Gil Arayot. Parce que là-bas aussi, c'est ça la svara.
Donc, on a dit. Mais Gil Arayot, ce n'était pas Narané ou Rassa?
Pas entendu.
Gilou Yaharayot, c'était Nahara Meurasa, non?
Oui.
J'ai mal compris.
C'est un passage. Oui, c'est juste. Comme une déduction de Nahara. J'entends Meurasa, pas. Pas au plus fort. Mettre le micro à côté de la bouche.
Mais pas que c'est grave. On a dit Nahara Meurasa, mais pas parce que c'est grave.
Alors pourquoi?
Nahara Meurasa, c'est qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On n'a pas dit que c'est parce que.
La Torah, elle a dit qu'il mieux vaut mourir pour ne pas faire ce péché. Ça veut dire que c'est un péché archi grave, qu'il mieux vaut mourir pour ne pas transgresser. C'est la gravité du péché. Sur Retzicha, on n'a pas commencé avec la gravité du péché. Retzicha, on a commencé avec Svara Maïchazit. Mais après, on a pris sur Gil Arayot. Là-bas, la Svara n'existait pas, c'est la gravité du péché. Après, on revient sur Retzicha aussi, c'est la gravité du péché. Mais là, c'est toi, tu penses sur mon Aramorosa, c'est tout la Arayot. Tout ce qui est marqué dans Parsha Arayot, et Chétiche, et belle-mère, et belle-fille, et belle-sœur, et tout l'Arayot. Alors, ça, c'est un exemple. Après, on apprend pour tout le reste. En tout cas, c'est la gravité du péché. Cette gravité du péché, je la tire aussi. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de tirout de menace, de chantage. Bon, alors on va arrêter ici, on va laisser la Gemara pour demain. Alors on va continuer les Antéchem à 14h. Ah, je voulais dire un petit mot. Oui. Ce soir, le soleil va se coucher, vous êtes au courant?
On est au courant, oui.
Ouais. Et après que le soleil se couche, on verra la lune.
Oui, oui, c'est ça.
Et demain soir, peut-être, il n'y aura pas de lune.
Ah.
Pourquoi?
Parce qu'il y a des nuages. Et donc?
C'est les dernières nuits ici en Paris, à Genève, je ne sais pas. Dans la région parisienne, il risque de plus avoir de lune, c'est moi. Donc, il ne faut pas rater ce soir, faire ce soir, c'est le dernier soir qu'on peut faire Kiddush Levana. Il faut faire ce soir.
Mais on est deuxième jour ce soir.
On est cinquième jour. Le Moulad, il était mercredi soir.
Ah.
Donc, il y a jusque jeudi soir un jour, jusque vendredi soir deux jours, jusque Motse Shabbat trois jours, jusque ce soir quatre jours. Ce soir à 23h, c'est le cinquième jour. Et on peut faire Kiddush Levana. Et j'ai écrit une tchouva là-dessus ce matin. Là, vous allez la recevoir si vous ne l'avez pas encore reçue. J'explique pourquoi, d'après tout le monde, on peut faire, on doit faire ce soir.
Mais une question générale. Comment se fait-il que le Moulad est toujours avant la proclamation du Rosh Chodesh? Jusqu'à comme ça, 3-4 jours.
Et pourquoi vous ne voulez pas que c'est comme ça,
hein? Ben, puisque le Moulad, c'est la nouvelle lune. Et donc, avec la nouvelle lune, on proclame Rosh Chodesh. A priori, il devrait y avoir maximum un délai de 24 heures.
Mais c'était vendredi, le Moulad et le Rosh Chodesh.
Vous avez dit que le Moulad était mercredi.
Mercredi soir à 23h, oui.
Et c'est Rosh Chodesh, le premier jour, le véritable jour, c'est samedi.
Alors, la Gemara dit dans Rosh Hashanah que le Moulad n'est pas ce moment-là visible pour l'œil. Quand il y a le Moulad, l'œil humain ne voit pas. C'est trop petit. Le Moulad, c'est dès qu'en théorie, il y a un millimètre de la lune visible. Mais l'œil humain ne peut pas le voir, premièrement. Il faut plusieurs heures après, minimum 6 heures après. Deuxièmement, il faut qu'il sera visible en Eretz Israël. Mais 6 heures après le Moulad, la lune sera visible à un certain endroit dans le monde, mais pas dans le monde entier. Et pour qu'elle sera visible à Yerushalayim, des fois, il peut passer encore 24 heures pour qu'elle sera visible. Donc, le Moulad, il est toujours avant le Rosh Chodesh. Parce qu'il faut qu'il passe les 6 heures pour donner la possibilité de le voir. Plus, il faut que ça arrive à Yerushalayim, la vision. Et c'est pour ça que le Moulad, il est toujours avant. À part ça, il y a encore un autre truc. Que même si on a déjà vu Yerushalayim, s'il y a une raison spéciale, pourquoi les Chachamim veulent repousser un jour le Rosh Chodesh, on a le droit. Si par exemple on ne veut pas que le Kippour tombe vendredi ou il tombe dimanche, on a le droit de repousser malgré qu'on a vu la lune. Si c'est ce mois-là, si, je ne sais pas si c'est comme ça maintenant la calcul, mais en tout cas, c'est comme ça.
Mais pourquoi vous avez dit qu'on ne pourra pas faire demain soir?
Parce que je n'ai pas de lunettes qui passent les nuages.
Ah, c'est sûr que demain soir, on ne verra pas la lune?
Non, en principe, les météos ont dit que ce sera couvert pendant une semaine.
Ah, d'accord.
10 jours, ce sera couvert avec pluie et compagnie.
D'accord.
J'ai rien qui est sûr. Si tu veux louer après-demain un hélicoptère, tant mieux. Mais moi, je préfère de faire ce soir sans hélicoptère. En vérité, moi, j'ai déjà fait hier soir. Bon. Quoi?
Je vais prendre un hélicoptère, peut-être. Peut-être.
Mais tu peux aussi descendre dans 3 étages et sortir pendant 5 mètres et tu peux faire, ça coûtera moins cher. Alors, Paul Touf.
Radak Ravrant, merci beaucoup pour tout.
Merci Ravrant.
Ravrant,
Paul Touf.